Armand Sylvestre, Conte d'automne, L'âge d'or. Vous rappelez-vous, madame, l'adorable coin de paysage où nous étions assis, l'un auprès de l'autre, il y a 2 jours, à l'heure du soleil déclinant vers les horizons clairs d'un été d'après-midi? 2 jours, ce n'est pas bien long, même pour une mémoire de femme. Et vous pouvez-vous vous en souvenir encore, sans rougir comme d'une histoire qui nous vieillit tous les deux? C'était sous une feuillée toute verdoyante et comme printanière, malgré la saison où nous sommes. Caprice d'exposition, sans doute, protégée des ardeurs caniculaires, des pluies fouettantes et du vent qui brûle. Mais rien n'était plus frais que cet ombrage, ni plus jeune, ni plus caressante aux yeux, et vos regards s'arrêtèrent sur un marronnier chargé de fleurs et de pousses nouvelles, comme si avril, le plus menteur des mois de l'année, avait promis de revenir bientôt. Pas une rouille au tapis profond des mousses, mais quelques petites fleurs éparses dans leur uniforme de velours. Votre beauté rayonnait dans ce décor à la fois éclatant et doux, comme dans un reposoir de fête-dieu élevé pour elle. On eût dit, une divine, que c'était votre jeunesse qui se répandait autour d'elle, sur les choses et sur les êtres, par une divine contagion de renouveau. Car tous les oiseaux étaient venus vous chanter autour de nous, et de bonnes odeurs de plantes sauvages s'élevaient à vos pieds d'invisibles encensoirs. J'étais sous le charme d'un isolement complet du reste du monde, dans l'amoureuse contemplation de vos grâces, plein d'adoration mystique et de désir fou. Car l'âme est chez moi bien voisine de la chair, et le paradis des purs esprits n'est pas le mien. Oui, paradis, oh, c'était un paradis, tout petit, que ce bouquet d'arbres des tours profonds d'une allée, un morceau du paradis qu'avait oublié de garder l'usage, l'ange qui porte le glaive. Quel contraste, en effet, avec tout ce qui l'entourait et frappait nos yeux. Partout ailleurs, en avant, de droite et de gauche, c'était bien octobre avec ses tons jaunes ou pourprés qui sont comme la couleur des déclins. C'était une débauche d'encre sur la grande palette de la nature, très claire aux branches frémissantes des peupliers, plus foncées sur les masses plus denses des autres essences. Mais partout, la brûlure des étés prête à s'envoler au premier vent d'automne dans un tourbillon de feuilles sèches. On eût dit que le fer rouge qui marquait jadis les condamnés avait été promené sur toutes ces splendeurs vivantes, y gravant l'implacable arrêt dont est atteint tout ce qui doit périr. Certes, il y avait beaucoup de mélancolie dans cette gloire sans lendemain, mais quel éclat et quelle magnificence fragile! Le jour semblait finir dans un féerique embrasement de fleuve lointain, paraissait une coulée de métal scintillante de paillettes et bordant le manteau rose du couchant. Des lumières couraient sur toutes les arêtes vives où s'étendaient par ondées sur les plaines. Oh, on dirait que ce paysage est tout en or, dites-vous tout à coup, rompant le silence où se complaisait ma tendresse recueillie. Et ce simple mot, tombé de vos lèvres, m'a valu cette nuit un des cauchemars les plus fâcheux qui me laissait pensif au réveil. Vous ne parliez plus par métaphore. La folie humaine que poursuit l'or avec des rages de damnés avait touché sa récompense. Midas, ressuscité, voyait refleurir son rêve monstrueux. Suscité par quelque sublime découverte, une immense convulsion avait retourné le globe sur lequel nous vivons. La terre avait vomi ses entrailles à sa surface, ces entrailles-là s'est déchirées par le travail obscur des chercheurs de filons. Toute la nature extérieure était en or dur et cristallin, mais tiède encore des fusions anciennes au centre de notre planète. Les arbres sans murmure, les montagnes sans souffle vivifiant, les fleuves arrêtés dans leur cours, les vallées sans ombre frémissante, tout en or. De l'or, rien que de l'or. C'était superbe d'abord, puis odieux et insupportable à regarder. Des pépites gisaient sous toutes les formes. Tous les corps résonnaient avec le même bruit sec, la même musique barbare. Tous les oiseaux avaient fui sous le ciel poli comme un miroir, où se reflétait toute cette richesse insipide, sous un ciel sans infini, sans au-delà, sans voile, où les astres, figés dans leur course, s'éteignent comme des flambeaux qui pâlissent dans le grand jour. Les animaux qui courent et ceux qui rampent, mais qui tous ont la vie et le mouvement, avaient disparu dans ce cataclysme et dormaient sans doute sous ce tombeau fastueux dont Sardan Lapal lui-même n'eût osé caresser la chimère. L'homme seul était resté de toutes les bêtes, l'homme affamé, l'homme châtié par son propre vice, victime de sa longue démence, l'homme éperdu dans cette réalisation cruelle de son désir acharné. Le métal qu'il avait poursuivi comme l'unique bien, qu'il avait longtemps payé de la sueur des misérables et cherché jusque dans le sang, ce métal le débordait, l'envahissait, l'étreignait. Il lui brûlait les pieds ou déchirait les mains, aveuglait ses yeux, il lui mettait au ventre les morsures de la faim. Il eût vendu son âme, l'homme misérable, pour trouver une seule goutte d'eau dans ce pactole. Et tout ce qu'il avait profané, souillé, foulé sous ses pas, dans ses recherches impies, emplissait sa mémoire de remords et d'ironie. L'idéal conspué y pleurait ses immortelles joies. L'amour y comptait ses larmes et ses baisers perdus. La poésie chantait sa chanson à jamais envolée. Puis c'était la torture physique compliquant l'angoisse morale. Le souvenir des blés magnifiques et nourriciers oscillants, lourds de graines et comme dorés sous les souffles mûrissants du matin. L'image des vignes empourprées et celle des pommiers en fleurs, semant dans l'air l'espoir des fruits prochains. La vision impérissable de cette nature maternelle et douce. L'alma parens antique, pleine de grâce féconde et de fertile beauté. Ah, vous auriez frémi comme moi à voir ce fantôme de l'homme s'agiter dans cette apothéose implacable de la matière, jugée la plus pure et la plus glorieuse par les alchimistes de tous les temps. Éveillé, je restais longtemps sous l'impression de cette fantasmagorie nocturne. Il y avait des moments où je croyais que je n'avais pas rêvé, car un symbole très clair et très aisément saisissable était au fond de cette vision, au premier aspect saugrenu, celui de la vie des races futures, compromise par les horribles instincts de lucre qui sont l'honneur de la nôtre et de ce temps méprisable. Oui, l'homme crèvera, faute d'idéal et faute de pain, après avoir épuisé, pour en venir là, plus de génie qu'il en eût fallu pour rendre d'éternelles générations heureuses dans l'amour simple des êtres et le respect facile des choses. Mais je ne veux pas vous épouvanter, madame, de ces sombres prophéties. Je serais mort certainement avant ce temps-là, d'une mort naturelle et douce, si mes yeux, en se fermant, voient encore votre sourire. Vous-même, peut-être, ma chère âme, serez-vous également trépassée, car la beauté pour être immortelle ne donne pas l'immortalité. J'imagine toutefois que, comme à nous l'autre jour, à ceux qui s'aimeront encore, en ces temps maudits, la pitié du destin gardera quelque oasis pareille à celle où, dans une illusion de printemps, nous avons vu, sous nos regards, l'or mortel de l'automne tendre sur les fenêtres son mélancolique linceul. Car l'amour seul conservera le secret du ragissement infini dans quelques âmes élues. Et cela suffira pour que les oiseaux chantent encore, se sachant écouter, pour que les ruisseaux roulent leur fraîcheur parmi les mousses, pour que les sources recueillies semblent attendre l'image de celle qui vous ressemble. C'est l'amour seul qui, dans cet âge d'or sans pitié, gardera, comme un ange débonnaire, un coin de ce paradis biblique à nos fils éperdus.